Alors, ce matin, je commencerai par une devinette. Connaissez-vous un ouvrage dont la rédaction a pris plus de 15 siècles, de son début à son achèvement, qui a vu une quarantaine d'auteurs d'origines très diverses participer à cet ouvrage sur trois continents, et qui, malgré une si longue période et une si grande diversité de participants, forme un tout merveilleusement unifié? Je pense que vous avez la réponse. Pour vous aider un peu, l'on pourrait ajouter que cet ouvrage a été traduit intégralement en 704 langues, parlées par 5,7 milliards de personnes, selon les données de 2020. C'est le best-seller de tous les temps. Plusieurs milliards en ont été imprimés et diffusés. Et on le trouve pour un prix défiant toute concurrence de 3,95 € chez notre ami Jean-Luc Pierret d'Ésaïe 55. Oui, il s'agit d'un livre que nous possédons tous, je pense, la Bible. Mais que signifie déjà le mot Bible? Il vient du grec ancien biblios ou biblion, qui correspond à l'hébreu sépher, qui signifie livre, qui a donné ta Biblia, un substantif au pluriel qui signifie les livres, point qui souligne son caractère multiple. Il découle pour la langue française du latin féminin pluriel bibliae. Parfois, nous utilisons aussi comme autre nom l'écriture ou les saintes écritures. Le mot qui est traduit par écriture vient du grec graphe, qui signifie écrit. Ce mot est employé 51 fois dans le Nouveau Testament, comme en Romains chapitre 4, verset 3, car que dit l'Écriture? Leur inspiration divine se retrouve dans la désignation les Saintes Écritures en grec hiera grammata. De ce terme très utilisé dans le Nouveau Testament en découlent les Saintes Écritures. Nous trouvons cette désignation employée par l'apôtre Paul en Romains, au chapitre 1, verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les saintes écritures. Cette notion d'inspiration est donc primordiale, car en lisant ces écrits, cela revient en pratique à citer Dieu. Par exemple, en Romains 9, verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre, ou bien en Galates 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est donc bien Dieu qui parle au travers de l'Écriture. Mot qui comporte une majuscule d'ailleurs dans votre Bible. C'est pour cela que nous disons couramment la parole de Dieu pour nommer la Bible. Nous sommes en présence d'un livre composé d'un ensemble de textes ou livres écrits sur deux périodes distinctes. Une qui s'étend sur un millénaire, qui comprend les textes de l'Ancien Testament, suivi d'une période de silence de plus de 4 siècles, puis d'un ensemble de livres écrits sur une période beaucoup plus courte, de quelques dizaines d'années, le Nouveau Testament, terme donné par la chrétienté et qui pourrait être nommé plus justement Premier Testament et Dernier Testament. La question principale que se posent ceux qui découvrent l'Écriture est comment peut-elle former un tout merveilleusement unifié au vu des périodes si diverses de sa rédaction et du grand nombre d'auteurs ayant participé à celle-ci. C'est bien ce qui en fait un ouvrage différent. Parmi ces rédacteurs, nous trouvons des typologies très diverses. Nous avons Moïse, homme de double culture, hébraïque et égyptienne, un chef politique, puis Josué, qui est un chef militaire, David, un berger devenu roi, Salomon, un roi, Amos, un gardien de troupeau et un cultivateur de sycomores. D'autres prophètes comme Ésaïe, un habitant de Jérusalem, Jérémie, un descendant de prêtre, Ézéchiel, un prêtre exilé à Babylone. Puis, après le prophète Malachie, il se fera un silence de 430 ans. Comme au temps des juges, nous pouvons penser à ce verset de 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les auteurs du Nouveau Testament rédigeront les livres composant celui-ci sur une période assez courte, comme nous l'avons déjà vu, dans un monde déjà fortement unifié au niveau linguistique et politique par la domination romaine, utilisant le grec comme langue d'échange au sein de cet immense empire et imposant son modèle d'organisation à tous les peuples colonisés. Mais ils sont aussi divers de par leur origine sociale et culturelle que ceux de l'Ancien Testament. Nous avons Pierre et Jean, des pêcheurs du lac de Galilée, dont les responsables religieux pourront dire après la prédication de Pierre en Actes, chapitre 4, verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. » Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous avons Matthieu, un collecteur d'impôts pour le compte de Rome, honni par ses concitoyens qui le considèrent comme un collaborateur à la solde de l'occupant. Marc, l'évangéliste et proche de Pierre, qui travaillera avec Paul et participera à ses voyages. Luc est médecin, homme cultivé, maniant avec une grande élégance, finesse et précision la langue grecque du 1er siècle, koiné, il est le narrateur de la période si capitale et instructive de la naissance de l'Église au travers du livre des Actes des Apôtres. La structure de son texte, à empreinte de sa culture grecque dont nous tirons la nôtre, nous en rend la lecture facile. Et bien sûr, un autre auteur central du Nouveau Testament, la personne de Saul de Tarse, devenu Paul, à l'origine un pharisien, mais possédant la citoyenneté romaine, polyculturel, mais laissons-le se présenter lui-même en Actes, chapitre 22, verset 3. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Nous avons aussi Jacques, que la plupart reconnaissent comme un frère de Jésus, converti après la mort et la résurrection du Seigneur, qui est donc d'une origine modeste, fils de Joseph charpentier à Nazareth. Alors la question qu'un lecteur découvrant la Bible est en droit de se poser est: comment un tel patchwork d'auteurs, de cultures et d'époques si variées peuvent produire un ouvrage homogène et cohérent? Il faut développer pour répondre à ce questionnement légitime plusieurs points qui en font un livre unique. Tout d'abord, une des revendications de la Bible, les affirmations uniques que l'on trouve dans la Bible elles-mêmes témoignent de son caractère inhabituel. Elle déclare environ 3800 fois « Dieu dit » ou la parole de l'Éternel. Paul reconnaît aussi que ses écrits étaient les commandements du Seigneur, comme en 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. On peut aussi y associer ce que l'apôtre dit en 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Pierre aussi met en avant la certitude de l'Écriture en tant que témoin oculaire dans sa deuxième épître au verset chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Jean insiste aussi sur le caractère divin des enseignements dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quelques auteurs de l'Ancien Testament ont aussi défendu l'intégrité de la parole divine au prix de grands sacrifices et tribulations. Dans Jérémie, nous avons en mémoire cet épisode où il se trouvera jeté dans une citerne boueuse pour avoir averti le peuple de la prise de Jérusalem par l'armée babylonienne, en se faisant le porte-parole divin. Ainsi parle le Seigneur. Un deuxième point important est la continuité de la Bible. L'inspiration divine se voit aussi lorsque l'on considère la continuité de ses enseignements, malgré la nature si inhabituelle de sa composition. Comment 40 auteurs si différents à des époques si lointaines peuvent-ils participer à un ouvrage uniforme et cohérent dans son propos? Les auteurs vivaient des situations très différentes, en plus de leurs origines, qui n'affectent pas la continuité du propos. Nous avons des livres écrits dans un palais royal, Salomon, des psaumes composés dans la campagne par David, des livres écrits, des épîtres rédigés en prison par Paul, une révélation reçue par Jean banni sur l'île de Patmos. Mais le Saint-Esprit est l'unificateur des 66 livres et a présidé à la cohérence harmonieuse de la parole. Le Coran, par exemple, a été compilé par un seul individu, Zayd ibn Thabit, sous la surveillance du beau-père de Mohammed, Abou Bakr. Très rapidement, en 650 après Jésus-Christ, un groupe d'érudits arabes en a produit une version unifiée et a détruit les copies différentes pour en préserver l'unité. Pour en revenir à notre Bible, l'ensemble des livres nous enseigne la Trinité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, la personnalité du Saint-Esprit. C'est aussi le récit de la chute et de la dépravation humaine avec, en réponse, le salut par la grâce qui est déjà présent en filigrane dès les premiers chapitres. C'est la paternité divine de la Bible qui explique un tel miracle. Un autre but de l'Écriture est que Dieu se révèle aux hommes au travers d'elle. Il faut peut-être chercher l'étymologie du mot « révélation ». Il vient du grec « apocalypsis », avec pour synonyme le mot « dévoilement ». Par conséquent, cela signifie que Dieu s'est dévoilé à l'humanité. Ce qui est remarquable ici, c'est que Dieu a divulgué la vérité sur lui-même que l'homme n'aurait pu connaître autrement. Deux sortes de révélations. La révélation générale et la révélation particulière. Tout homme est au bénéfice de la révélation générale. C'est au travers de la nature, comme nous le voyons dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Dans Romains, au chapitre 1er, verset 20, l'apôtre nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu est aussi vu dans sa providence universelle. C'est ce que Paul met en avant à Lystre lorsqu'après une guérison miraculeuse, les païens de cette ville faisaient de Paul et de Barnabas des divinités. Nous trouvons ça dans le chapitre 14 du livre des Actes, au verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Il est aussi le maître des puissants. C'est Dieu qui élève ou abaisse ceux qui gouvernent. Dans le prophète Daniel, chapitre 2, au verset 21, nous dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est aussi Dieu qui a placé la loi dans le cœur de tous les humains. C'est Paul qui l'écrit aux Romains, chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà très rapidement quelques caractères de la révélation générale. Mais cette révélation ne peut procurer le salut. Et Dieu se révèle au travers des 66 livres composant notre Bible. C'est ce que la théologie nomme la révélation particulière. Elle est restreinte à Jésus-Christ et à l'Écriture. C'est Dieu lui-même qui, au travers de cette quarantaine d'auteurs guidés par l'Esprit, révèle sa nature, son constat sur l'humanité, son propos, ses plans d'éternité passés en éternité future et son salut pour l'humanité déchue. Dieu a parlé à Moïse pour établir la loi en Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Il parlera par les prophètes aussi tout au long de l'Ancienne Alliance. Nous avons leurs écrits à notre disposition. L'apôtre Paul, qui se présente aux Galates comme apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, revendique l'appel qu'il a reçu et l'inspiration divine de l'évangile qu'il leur annonce. Dans l'épître aux Galates, chapitre 1er, verset 11, il nous dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » On peut trouver une corrélation entre les deux aspects de la révélation particulière. L'Écriture est appelée la parole vivante, écrite, ce que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » On parle de Jésus-Christ comme la parole vivante incarnée. C'est ce que nous dit Jean dans son premier chapitre de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est la diapositive que nous avait passée Carmel, Jésus et la lumière. J'arrive au point de l'inspiration. C'est un point indispensable pour préserver la révélation de Dieu. Si Dieu se révèle, mais que la transcription de cette révélation est inexacte, alors cela remet en question cette dernière. Voilà ce qu'en dit Charles Serrairi. L'inspiration, c'est la direction de Dieu sur les auteurs humains, de sorte que tout en utilisant leur propre personnalité humaine, ils ont composé et considéré sans erreur composé sans erreur la révélation de Dieu aux hommes dans les mots des autographes originaux. Ou bien ce qu'en dit Edward G. Jung, l'inspiration, c'est la direction de Dieu, le Saint-Esprit sur les auteurs de l'Écriture, en vertu de quoi elle possède une autorité, une fiabilité divine, et elle est de ce fait libre de toute erreur. L'apôtre Paul précise cette vérité fondamentale à son disciple en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est très intéressant de noter que la traduction dans notre langue d'inspirer vient du grec théopneutos, qui signifie littéralement expiré par Dieu. Ce verset est important concernant l'inspiration et l'inhérence parce qu'il devient la clé du problème lorsqu'il est correctement compris. L'apôtre Pierre rejoint Paul lorsqu'il déclare dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pierre atteste là sa foi en l'inspiration verbale dans la mesure où c'est le Saint-Esprit qui dirige les auteurs de l'Écriture et par là même l'exactitude de ses écrits. J'ai utilisé un peu plus avant le mot d'inhérence, mot peu usité dans le langage commun car spécifique à la théologie. Mais il est important de comprendre ce qu'il signifie car cela fait partie de la profession de foi de notre Église, par exemple. Par le passé, il suffisait d'évoquer l'inspiration ayant conduit les auteurs bibliques pour en attester la vérité. Mais de nos jours, une opinion différente s'est fait jour au travers de ce que l'on a appelé la théologie libérale, qui remet en cause l'absence d'erreur et l'inspiration totale et plénière de la Bible. Porte ouverte à toutes les interprétations et adaptations du texte biblique. Je citerai encore les deux théologiens que j'ai cités tout à l'heure pour expliquer ce concept et ce mot d'inhérence. Edward G. Young propose cette définition. Par ce mot, nous voulons dire que l'Écriture possède la qualité d'être exempte de l'erreur. Elle est exempte du risque d'erreur incapable d'en commettre. Dans tous ses enseignements, elle est en parfaite harmonie avec la vérité. Où Charles Serrairie utilise un syllogisme pour conclure logiquement ce point d'enseignement biblique. Dieu est vrai, l'Écriture a été inspirée par Dieu, l'Écriture est donc vraie, puisqu'elle provient du souffle du Dieu véritable. Suggérer que la Bible contienne des erreurs revient à contester le caractère de Dieu, ce qui revient in fine à dire que Dieu puisse faillir ou commettre des erreurs. Mais l'inhérence autorise une diversité dans le style, les détails dans la narration, car chacun des auteurs utilise son vocabulaire, sa culture, sa sensibilité propre, qui vont influer le style rédactionnel. Les évangiles en sont un exemple typique. Comme nous l'avons déjà évoqué, Luc, ayant une instruction et une culture poussée, diffère dans son style de Jean, un pêcheur, ou de Matthieu, un collecteur d'impôts. En 1978, des théologiens évangéliques ayant signé la déclaration de Chicago déclarent ceci. L'autorité de l'Écriture est inévitablement mise à mal si cette inhérence divine totale est d'une quelconque manière limitée ou ignorée ou rendue relative à une vision de la vérité contraire à celle de la Bible. Et de telles erreurs provoquent de sérieuses pertes tant à l'individu qu'à l'Église. Un autre point à aborder pour ce survol de la bibliologie, c'est la doctrine de la Bible en théologie, est la canonicité. Le mot de canon est utilisé pour décrire les livres inspirés. C'est une question importante pour l'évaluation de cette inspiration ou non d'un livre. Les Juifs et les chrétiens conservateurs ont reconnu 39 livres de l'Ancien Testament comme étant inspiré et faisant donc partie du canon de l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, les protestants évangéliques ont reconnu les 27 livres du Nouveau Testament comme étant inspirés et donc canoniques. Par exemple, les catholiques romains ont un total de 80 livres parce qu'ils intègrent les apocryphes comme semi-canoniques. Toutes les traductions majeures utilisées dans l'ensemble de la sphère évangélique ont retenu le même canon, soit 66 livres. Nous avons vu que la Bible a été littéralement expirée par Dieu et qu'elle est de ce fait un ensemble de livres différents de toute autre œuvre littéraire. Comment l'homme peut la comprendre sans l'aide de celui qui a conduit à sa rédaction? Un homme non régénéré, dont l'esprit est obscurci par le péché, ne peut entrer et comprendre les vérités spirituelles. Il faut l'illumination pour que cet homme soit rendu capable de comprendre la parole de Dieu. Alors l'illumination, que nous pouvons qualifier de divine, en opposition au terme péjoratif attribué quand on dit quelqu'un d'illuminé, peut se définir comme étant l'œuvre du Saint-Esprit, par laquelle il éclaire ceux qui, entretenant une relation véritable avec lui, recherchent et comprennent la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a annoncé à ses disciples réunis dans la chambre haute ce ministère de l'Esprit. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Puis un peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Le dernier point que je souhaite aborder un peu, et l'interprétation biblique. La notion d'interprétation littérale signifie que les mots et les phrases de l'Écriture sont compris dans leur sens normal. Il faut remarquer qu'à la lumière des faits relatifs à la naissance du Messie, de son ministère, nous pouvons voir l'accomplissement littéral des prophéties de l'Ancien Testament. Comment ne pas citer Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, où le prophète nous indique que la Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Le chapitre 53 du même livre est une prédication sur le ministère et le sacrifice de Christ, en avance de plusieurs siècles sur ces événements. Et nous pouvons citer Michée, qui au chapitre 5 situe exactement le lieu de naissance du Messie annoncé à Bethléem. Dieu, au travers de ses prophètes, n'a pas parlé par des énigmes ou des devinettes. Cela ne nous dédouane pas, même si nous reconnaissons l'inspiration verbale ou plénière de l'Écriture, d'être attentif aux mots utilisés et aux liens grammaticaux, les liant sans nous affranchir du contexte général et historique dans lequel a été rédigé le livre en question. Pour résumer, les points à retenir sont, premièrement, la Bible revendique être ce que Dieu dit, elle est sa parole. Deuxièmement, il y a une continuité, une unicité de son propos, malgré sa rédaction si singulière. Troisièmement, Dieu se révélant au travers d'elle d'une manière particulière, il révèle sa nature même et son projet. Quatrièmement, les divers auteurs ont œuvré sous la conduite de l'Esprit. C'est son inspiration qui induit son absence d'erreur et la notion d'inhérence. Cinquièmement, une canonicité reconnue et partagée par le plus grand nombre de croyants. Sixièmement, il faut le concours de l'Esprit pour que nous puissions comprendre ses vérités, c'est l'illumination. Et septièmement, soyons vigilants quant à l'interprétation que nous en faisons en nous rappelant que Dieu ne change pas. Alors, pour conclure, Dieu a préservé sa parole d'une manière miraculeuse au travers des siècles pour qu'elle puisse nous parvenir sans avoir été ni déformée ni amputée. Nous pensons bien sûr au rôle des copistes de l'Ancien Testament qui prenaient un soin si particulier pour ne pas omettre une lettre ou une ponctuation du texte original, car ils connaissaient la valeur de cette parole et son inspiration divine. Puis aussi, comment, après avoir été cachés durant près de 20 siècles, les manuscrits retrouvés à Qumran en 1947 ont pu valider des textes en notre possession. Nous connaissons tous l'avertissement solennel de l'apôtre Jean à la fin du dernier livre du Nouveau Testament concernant celui qui ajouterait ou retrancherait des paroles au livre de l'Apocalypse. Mais pour nous, aujourd'hui, pratiquement, quelle est notre responsabilité relativement à l'Écriture? Nous vivons un temps où le poids et l'influence de la parole de Dieu diminuent considérablement dans notre société. Pendant les 17 derniers siècles, depuis l'empereur Constantin, les lois régissant les sociétés occidentales ont puisé leur source pour une certaine part dans la loi divine. Même notre code civil, rédigé à la base par Napoléon, dans une époque plus récente, y puise. Lors d'un mariage, c'est le maire représentant un État laïque qui indique que les époux se doivent une obligation de fidélité et de vie commune dans les bons et les mauvais moments jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais nous connaissons la réalité de ces bonnes intentions et des belles paroles qui suivent. Les lois sur la famille, institution divine, sont en train de se trouver complètement modifiées par des lobbies très actifs qui veulent faire exploser cette cellule instaurée par Dieu. Nous savons que Dieu ne change pas. Il n'a donné pour mission à quiconque de réécrire la Bible pour la faire cadrer avec l'évolution de notre monde. Satan sait que son temps est compté depuis sa défaite actée par le sacrifice et la résurrection de Jésus. Lui, il met les bouchées doubles dans son travail de sape. La tentation peut être grande de mettre de côté des portions du Nouveau Testament qui nous interpellent, nous dérangent, car mettent en relief des points où nous sommes repris par l'Écriture. J'ai souvent aussi entendu invoquer comme argument la contextualisation du texte à une époque. Mais ce n'est qu'un prétexte, car cela reviendrait à dire que Dieu adapte sa loi au temps et aux mœurs qui évoluent au fil d'un éloignement toujours plus grand de l'humanité de son Créateur. J'ai aussi entendu certains milieux mettre en cause les enseignements de Paul qui constituent pour une grande part le fondement. Le fondement pratique du fonctionnement de l'Église. Nous savons que l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, précise que dans les enseignements de Paul, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ou mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Jésus lui-même donne à ses disciples et à ses contemporains des enseignements qui se trouvent mis à mal aujourd'hui, même au sein du monde évangélique. Alors, est-ce que les exigences de Dieu changent? Je pense que nous avons tous la réponse. Non, bien sûr. C'est au Dieu trois fois saint que nous avons affaire. Et il serait grave de tomber dans le piège tendu par l'ennemi nous disant « Mais Dieu est amour » en oubliant qu'il est aussi juste et saint. La parole tout entière est là pour nous rappeler cela. L'exhortation pratique par laquelle je souhaite conclure ce message, pour lequel je sens toutes mes limites face au caractère si important du sujet abordé, est la suivante. Dieu nous a transmis son plan envers l'homme, son propos établi de toute éternité par le moyen de l'Écriture sainte. Il a tout mis en œuvre pour nous la transmettre au fil des millénaires, des périodes sombres où elle était cachée au plus grand nombre, puis redécouverte comme seul guide, le sola scriptura de la Réforme, entre autres. Il a veillé à ce que les textes originaux soient protégés de modifications humaines pour que nous ayons à notre disposition un texte dicté par l'Esprit Saint. À nous de nous l'approprier, de l'étudier avec soin, de nous édifier ensemble en la partageant lors de nos moments dédiés, en prenant du temps pour elle. Le monde dans lequel nous vivons immergés sature notre cerveau de nouvelles vraies ou fausses d'ailleurs, qui peuvent nous faire perdre beaucoup de temps et nous éloigner de ce que Dieu veut nous dire. Restons centrés sur l'essentiel, ce qui ne passera pas, notre héritage éternel. Soyons vigilants, analysons, filtrons tout enseignement comme le faisaient les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact.